France Culture.
Attention, attention.
Voilà. Ah, mais c'est peut-être moi qui... Bonjour, c'est moi, j'ai fait un mauvais coup de chance. On doit la contacter quand on est dans la cour. C'est toi qui téléphone du coup ? C'est moi qui téléphone. Oui, c'est Vivien et Marie et Frédéric de la radio. On est dans la cour.
Il y a ma fille qui crie, ils sont dans la cour.
On est dans la cour.
Ça arrive, monsieur.
Ah bah voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Marie, bonjour.
Eh ben, enchantée aussi.
Merci beaucoup.
France Culture.
On avance.
Ah ouais, ouais. Allez-y, allez-y.
Le Book Club.
J'allais dire, mais vous n'avez pas qu'une fille, vous avez une troupe d'enfants. C'est une école.
Exactement. C'est pas mal, non ?
Oui, c'est trop bien. J'adore. Trop bien.
Dans la bibliothèque d'Anna Mouglalis.
Ouais. De l'école.
C'est pas mal. C'est mieux que les sonneries qu'on avait. Hein ? Un petit peu moins agressif.
Marie Richeux.
La dernière chose que j'ai lue avant de quitter l'appartement d'Anna Mouglalis, ce sont deux tribunes parues dans le journal Libération, savamment scotchées sur la porte intérieure de ses toilettes. L'une signée du philosophe Paul Preciado, qui réfléchit à l'insulte féminazie, l'autre devenue culte, signée Virginie Despentes, titrée « Désormais, on se lève et on se casse », publiée après qu'Adèle Haenel a quitté la cérémonie des Césars qui récompensait le réalisateur Roman Polanski. Cohérent, me suis-je donc dit en sortant. La comédienne ayant commencé la visite de sa bibliothèque par plusieurs étagères consacrées à la théorie féministe. Des lectures après lesquelles elle s'était trouvée transformée en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant qu'artiste. Cohérent donc, et cohérent aussi, les textes qu'elle décide de partager avec nous ce jour-là, tous empruntés au champ de la théorie féministe. Il y a une école collée à l'appartement d'Anna Mouglalis, par conséquent l'on est accueilli par les cris des enfants, leurs rires et leurs jeux. Et au fond, dans toutes ces lectures, il est toujours un peu question d'eux, du futur et du monde que l'on sera capable collectivement de créer.
Bon, y en a un peu partout.
Je me dirige là-bas comme si c'était le début de quelque chose, mais...
Bon, mettons que là, c'était la bibliothèque principale, classée par ordre alphabétique.
Mais bon, c'est dit au passé.
Ben ouais, ouais, parce qu'il y a des choses là, on essaye quand même de mettre à l'étage de la bonne lettre. Mais non, c'est un peu, enfin, ça commence à être un peu mélangé. Et puis après, alors ici, il y a une bibliothèque plus avec des livres d'art et un gros bordel. Ouais, c'est un petit peu mélangé, on va dire, mais c'est quand même plus des livres d'art. Et ici, plus une bibliothèque de théorique, on va dire, un peu plus. Mais pareil, finalement, c'est le bazar partout. Hein. Là, il y a ta pièce, là. Bon. Bah, en fait, c'est une bibliothèque qui est née d'une recherche que j'avais faite. Donc, il y a beaucoup le mot viol, n'est-ce pas ?
Quand même, on peut même dire que vraiment en vue extraordinairement rapide et en photographie très rapide, très tournée autour de la théorie féministe quand même.
Ouais, ouais, quand même.
Il y a par exemple tout en bas à droite une collecte de la revue La Déferlante. Je dis un peu, je décris, hein.
Une collecte, ouais, bah c'est les numéros qui sont sortis.
Voilà.
Ouais,
ouais. Est-ce que vous voulez dire un mot de la recherche que vous avez faite ?
J'ai travaillé sur un film, un documentaire que je suis toujours en train de réaliser, qui est toujours, ça a ouvert plein de portes, mais au départ, ça partait du viol. Donc j'ai lu énormément d'ouvrages sur le viol, entre autres.
Chose que vous n'aviez pas fait avant.
Non, pas trop. Ouais. En tout cas, pas de théorie, non. Mmh. Non. Et en fait, ça a ouvert une fenêtre incroyable. Mmh. Maintenant, je pense que la théorie féministe m'a donné une colonne vertébrale, vraiment. Vraiment.
Et ça a ouvert, c'est-à-dire en plus d'ouvrir des champs de lecture purement théorique, vous diriez que ça a fait de vous une autre lectrice ?
Sans doute. Par exemple, ça a été très compliqué, après voilà, avoir plongé, de retourner à la fiction, par exemple. Ça faisait déjà un moment que je ne lisais plus, quasiment plus que de la littérature écrite par des femmes. Et avec cette plongée, non, parce que ça demande de changer tellement les paradigmes qu'ensuite ça a été un vrai choix.
De plus lire de fiction ou de ne lire plus que des femmes?
Un peu les deux. Et bon, je reviens tout doucement parce qu'il y a quand même des merveilles et que ça me transporte la fiction aussi, mais il y a eu une grosse pause, ouais.
Mais est-ce que, pour être sûr de bien comprendre, vous pouvez détailler qu'est-ce qui, dans la lecture et la découverte de ce grand champ de la théorie féministe, fait que d'un seul coup, le retour à la fiction, il est rendu difficile, voire impossible?
Dans un rapport au réel, parce que c'est complètement passionnant, certaines fois, de se rendre compte qu'il y a des vérités qui devaient juste être révélées. Et voilà, je sais pas, c'est des autrices qui m'ont prise par la main. Mmh. Je pense, enfin, je sais pas, Silvia Federici, Patricia Romito, vraiment une façon de parler du monde et du mien aussi. Mmh. Parce que j'avais pu lire de la philosophie avec beaucoup de plaisir, mais là c'est voilà dans ce rapport vraiment au monde qui me travaille, au monde qui m'interpelle.
Mais c'est comme si du coup d'un seul coup il y avait tellement à faire avec le réel,
ouais,
que
ça.
La fiction plus tard quoi, ou
plus...
mais l'urgence elle était là.
Exactement. Mais bon dans ce réel il y a je sais pas, je vois il y a Zami d'Audre Lorde. Voilà, c'est ce réel, cet intime politique, et puis la théorie. Ouais.
Pour nos auditeurs, dire que ça occupe du coup quelques caisses en bois, quand même, c'est conséquent.
C'est ça.
Donc là, ce que vous avez dit, c'était la bibliothèque initialement classée par ordre alphabétique, voilà. Comme plus... Mais ça veut dire que ça précéderait, ce serait des livres...
Exactement, c'est des livres qui m'accompagnent pour certains de...
Depuis plus longtemps, quoi.
Ouais.
Ouais.
Pour certains, depuis mes 18 ans, pour... Et c'est quand même majoritairement du roman, et poésie.
Et du sol jusqu'au plafond, là encore, pour donner une idée, Anna Mouglalis a fait de vous, d'emblée, on va dire, une grande lectrice, on peut dire ça?
J'ai besoin de lire. Vraiment, j'ai besoin de lire, c'est pas...
Tout le temps.
Non, j'ai grandi et il y avait une injonction comme ça, il fallait lire. Et donc à ce moment-là, ça m'intéressait pas beaucoup, forcément.
Logique.
Non, ça a été plus... Enfin, je lisais pas, enfant, je lisais très très peu. J'ai jamais lu de BD. J'y arrive toujours pas, malheureusement, c'est comme ça. Ouais, vraiment plutôt à partir de 15 ans, on va dire.
Et là, par contre, ça a été fort.
Ouais. Moi, ouais, ça a été fort et puis j'aimais aller vers des livres qu'on m'aurait peut-être pas proposé et j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'aller en librairie. Mes parents donc célébraient le fait qu'on puisse lire et on pouvait aller en librairie et prendre ce qu'on voulait, ce qui est une grande chance aussi. Et puis bon, il y avait aussi les bibliothèques mais ouais, ces livres, c'est des livres qui vivent en nous après.
Est-ce que y en a qui sont un peu mis en avant? Ce serait...
Alors, pas vraiment. En fait,
non, hein. Je les vois un peu mieux, quoi. Mais...
C'est ça, mais c'est plus pour les faire tenir qu'autre chose. Et puis, c'est pas uniquement ma bibliothèque.
Ah oui, d'accord, il faut dire ça aussi.
Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr.
Et ça, vous aimez bien, l'idée de partager votre bibliothèque?
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Vous pouvez aller regarder le pan de la bibliothèque de l'autre avec plaisir.
Exactement.
Et curiosité.
C'est ça, c'est ça. On partage beaucoup. D'ailleurs, enfin, en ce qui concerne les livres d'art, c'est pareil, j'avais pas du tout cette culture. Les catalogues d'exposition ou autre. Et quelle chance, en fait.
Vous regardez, vous pratiquez ça maintenant?
Bah ouais, ouais, ouais. Comme une balade, quoi. Puis j'ai découvert plein de choses, parce qu'il y a plein d'expos temporaires que, bien sûr, je n'ai pas vues.
Vous pensez à quoi, par exemple? Quelque chose que vous auriez vraiment pu découvrir avec un catalogue d'exposition? Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas très souvent de cet usage-là des livres, d'avoir un rapport à l'art qui soit comme déménagé de la salle d'exposition.
Par exemple, alors, j'ai eu la chance de découvrir le travail de Laïa Abril, qui était exposée au Bal à Paris. C'était sur l'hystérie, la dernière exposition, mais elle a fait d'autres expositions que j'ai découvert vraiment grâce au catalogue, sur l'avortement, le viol, l'anorexie. C'est génial le travail de cette femme. Quoi d'autre? Bah, je dois dire quand même que je connaissais assez mal Louise Bourgeois aussi, qu'elle a, alors que...
Bien représentée, du coup.
Voilà, ouais. C'est ça.
À côté de Diane Arbus.
Non, mais plein de choses, parce que je connaissais assez... Enfin, je connais pas très bien l'art contemporain, je dois dire. Donc, là, j'ai des propositions très, très régulières de la personne à qui appartiennent ces livres.
De regarder.
Exactement.
Super.
Là, alors c'est... Là, c'est des livres qui sont là parce que j'en ai eu besoin. Et puis certains qu'on m'a offerts, que j'ai pas lus. Non, par exemple, ça, c'est...
Et quand je vous dis que vous en avez besoin, ils sont là parce que vous en avez besoin. Donc concrètement, on est entre votre cuisine, table à manger, et puis un espace un peu plus de salon. Ils sont vraiment sur un banc. Et donc ça veut dire que vous travaillez, vous les prenez, ils sont là, vous les regardez, ils sont présents.
Exactement. Et là, ceux-là sont là parce que on a un album qui vient de sortir avec un groupe qui s'appelle Draguin et que j'ai été un petit peu à la recherche puisqu'il s'agit aussi de faire des concerts d'images ou de références par rapport à la présence scénique.
Vous cherchiez ça, vous?
Ouais. Voilà, voilà. Okay. Donc, ouais, pour moi, c'est des endroits
de recherche.
De recherche, ouais.
Et vous avez trouvé dans ces livres-là, mais c'était pour concrètement, par exemple, vous vous disiez, ah tiens, donc juste pour dire deux trois mots de ce projet, donc vous voulez, bah, faites-le en même temps.
Alors ce projet, c'est une célébration des guerrières de Monique Wittig. L'album suit la chronologie des guerrières, bien sûr, il n'y a pas tout le texte. Donc les guerrières, ce néologisme des femmes en guérilla. Et pour être aussi sur scène à la hauteur de la puissance de cette proposition qui décrit une société dans laquelle les femmes auraient mis fin au patriarcat, on les voit en lutte.
Et on est en 69 à l'apparition des guerrières.
Exactement. C'est un texte de 69 mais qui n'a rien perdu de sa puissance, de son urgence, de sa nécessité. Là, on l'a éprouvé, on a fait deux concerts, c'était assez bouleversant. En plus, pour moi, une expérience complètement nouvelle parce que pendant un concert, on voit le public et on n'a pas besoin de faire semblant de pas le voir. Contrairement.
Au contraire même.
Bah, quand on joue une pièce de théâtre, bon, on fait exister quand même ce mur. Ouais, ça a été très émouvant de voir des femmes en larmes. Enfin, je veux dire, c'est un texte d'une puissance folle qui n'est pas du tout daté. Et toute cette urgence par rapport aux femmes en lutte, parce qu'on nous fait toujours croire que, ben, comme il y a peu d'historicité des luttes, à moins d'aller la chercher dans la théorie, où on a l'impression qu'on n'a pas d'aînés, qu'on serait des orphelines, alors que non. Et puis aujourd'hui, on le sent très fort. Enfin, des femmes en lutte armée ou pas, il y en a toujours eu depuis la préhistoire. Voilà, et puis c'était parce que se pose la question de, par exemple, qu'est-ce que mon corps sur scène avec le groupe va raconter. Donc oui, j'ai fait des recherches pour aller trouver une imagerie, une iconographie des luttes. Ben ouais. J'ai pas encore mis en pratique sur les deux premiers concerts, parce que ça mature encore un peu, mais ouais, il y a des propositions qui vont sortir de ça, c'est sûr.
Qu'il y ait du corps qui sorte des livres. C'est...
Exactement.
Est-ce qu'on va jusqu'à là-bas, ou est-ce qu'on a déjà fait un grand tour? Ah oui, non, je disais, ouais, ça c'est une... Là.
Là, y a... Non, mais c'est très... En fait... Ça semble très désordonné, mais je sais où ils sont, donc c'est ce qui compte.
Voilà,
donc je peux pas décrire complètement ce qu'il y a là. Voilà quoi.
Sinon, qui sont là.
Voilà.
Je vois juste Doris Lessing, moi, voilà. Hop,
voilà,
qui est là.
Paul B. Preciado. Un livre sur les océans.
Il y a quand même aussi dans ce que j'aperçois à Namouglaglis des une attention à des textes contemporains aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que peut-être par rapport à d'autres bibliothèques qu'on a pu visiter, on sent que peut-être, je sais pas si c'est vous qui les achetez ou si on vous les envoie ou un petit peu des deux, mais comme si vous aviez une attention portée à ça.
Ouais, parce qu'effectivement, pendant tout un temps, face à l'océan de chefs-d'œuvre, enfin dits chefs-d'œuvre uniquement écrits par des hommes, je lisais très peu de littérature contemporaine. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une jouissance à voir la production qui existe. Il y a des maisons d'édition formidables. Oui, vraiment. Vraiment.
On va lire les extraits des textes D'accord. que vous avez choisis.
Ouais.
Du coup, on s'était dit, le chat qui loge sur les extraits. Moi, j'ai pas de chat, mais dans ma tête, les chats, c'est vraiment comme les enfants. C'est quand tu lis, ils viennent
dessus, ouais.
sur le truc que tu dois lire. Salut. Ok, pas du tout me parler.
C'est vraiment une leçon de consentement, okay. n'est-ce pas?
C'est exactement ça, ouais.
Le Book Club dans la bibliothèque d'Anna Mouglalis. Marie Richeux.
On vous a juste demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 textes. Vous vous êtes dit quelque chose en particulier pour présider à ce choix, ou comment ça s'est passé?
Alors effectivement, parce que comme vous voyez, ça se balade un peu, c'est pas très organisé, et j'ai eu envie de partager de la théorie. Parce que je trouve que ça a toute sa place et que, enfin, pour moi, c'est devenu vraiment de la littérature, c'est-à-dire une matière qui a transformé mon imaginaire. Mmh. C'est pas douloureux, la théorie. Mmh. Effectivement, faut plonger, mais c'est quelque chose qui permet de s'incarner, moi qui me permet de m'incarner, donc j'ai envie de la partager. Je trouve que souvent on laisse de côté parce que ça peut être un petit peu plus âpre. En plus, bon, là il s'agit quand même de traduction, mais
aussi de 3 grandes langues à la fois. C'est traduit, enfin je dis ça parce que vous regardez à la fois Solanas, Dworkin et Lord. Disons que c'est littéraire aussi, quand même. Il y a une puissance poétique qui est forte.
Exactement. Et Dworkin, peut-être on peut commencer avec Dworkin, puisque elle a eu beaucoup de mal, en fait, à publier. Ça s'était sorti au Canada, mais en France, c'est sorti finalement très récemment. Et ce sont ses discours. Elle pouvait pas publier, mais elle prononçait quand même des discours.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que dans les trois premiers choix, là, à chaque fois, il y a quasiment presque 20-30 ans de différence entre la parution initiale et la traduction en français, ce qui dit aussi quand même beaucoup de choses sur notre paysage éditorial et comment il s'est modifié au tout début du XXIe siècle et comment on a accédé à certains textes mais qui sont venus lentement vers nous, pour celles et ceux qui n'étaient pas anglophones en tout cas. Don Dworkin, c'est Notre sang, discours et prophétie sur la politique sexuelle. C'était paru en 1976 aux États-Unis et c'est paru à l'édition des femmes Antoinette Fouque en 2011. La traduction de l'anglais est signée Camille Chaplin et Harmonie des Villards. C'est une femme qui a vécu entre 1946 et 2005. On vous écoute.
Ce qui caractérise l'art masculiniste et les hommes qui le créent, c'est la misogynie. Et face à cette misogynie, il valait mieux réinventer la probité. Ceux-là, les masculinistes, nous ont raconté qu'ils écrivent sur la condition humaine, que leurs thèmes sont les grands thèmes. L'amour, la mort, l'héroïsme, la souffrance, l'histoire même. Ils nous ont raconté que nos thèmes, l'amour, la mort, l'héroïsme, la souffrance, l'histoire même, sont insignifiants, parce que par nature nous sommes insignifiantes. Je renie l'art masculiniste. Ce n'est pas un art qui éclaire la condition humaine. Il éclaire seulement et pour toujours à la honte éternelle des hommes, le monde masculiniste. Et à bien regarder autour de nous, ce n'est pas un monde dont on peut être fier. L'art masculiniste, l'art de siècles d'hommes n'est pas universel, ni l'explication ultime de ce que signifie être au monde. Ce n'est finalement que la description d'un monde dans lequel les femmes sont assujetties, asservies, réduites en esclavage, dépossédées de leur plein accomplissement, différenciées par leur seule présence corporelle, rabaissées. Je dis, ma vie n'est pas insignifiante, ma sensibilité n'est pas insignifiante, mes batailles ne sont pas insignifiantes, ni celles de ma mère, ni celles de sa mère avant elle. Je renie ceux qui haïssent les femmes, qui ont du mépris pour les femmes, qui ridiculise et rabaisse les femmes, et dans ce reniement, je renie presque tout l'art, l'art masculiniste jamais créé. En tant que féministe, nous habitons le monde d'une nouvelle façon. Nous voyons le monde d'une nouvelle façon. Nous menaçons de le mettre à l'envers et sans dessus-dessous.
C'est un extrait donc de Notre sang d'Andrea Dworkin. Tout à l'heure, vous avez dit, après que j'ai traversé tout un champ de lecture de théorie féministe, je ne pouvais plus lire comme avant, je ne pouvais plus fonctionner comme avant. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a quelque chose du renversement qui est une nouvelle façon de voir le monde. Est-ce que vous sauriez dire à nos auditeurs et auditrices, c'est quoi par exemple ? Ça passe par quoi concrètement ? Quand elle dit, nous sommes féministes et nous voyons le monde d'une nouvelle façon.
Par exemple, éclairer, comprendre puissamment les rapports de domination, c'est une féministe matérialiste, c'est les reconnaître par rapport, par exemple, au monde capitaliste, à toute l'horreur et la violence, la barbarie d'un système de domination, mais en reconnaissant que voilà, le prolétaire du prolétaire, c'est sa femme. Et ce basculement, c'est effectivement en grandissant avec toute une littérature dans laquelle l'homme est toujours le protagoniste, la femme est une figurante ou une muse ou quelqu'un de quasi désincarné ou alors incarné uniquement à travers le regard de l'homme. On intègre, sans s'en rendre compte, une misogynie. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de misogynie.
Ordinaire.
Ouais, voilà. Voilà. C'est peuplé de toutes ces réflexions. Je me souviens que les premiers temps, quand j'allais vers des œuvres créées par des femmes, des films, des livres, alors pour le cinéma, c'est encore plus aberrant, comme on donnait beaucoup moins de moyens aux femmes. C'était des films pauvres. Je trouve que dans les films pauvres, il y a souvent les plus beaux. Mais quand même, ça vient déterminer aussi un rapport à l'image, au grain, au scénario, à la quantité de personnages.
À l'ampleur, quoi, qu'on peut éventuellement donner à un film.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a eu beaucoup de femmes au cinéma qui ont voulu montrer qu'elles pouvaient faire des films comme les hommes. Il y a ça en littérature aussi, très fort. Là, il y a quelque chose qui s'est ouvert parce qu'on a accès au texte, alors avec la technologie moderne. Mais ça permet quand même ça. C'est vrai qu'on trouve plein de choses. C'est pas aussi difficile que quand j'étais plus jeune, quoi.
Mais ça vous a manqué ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'en le découvrant, vous vous êtes rendu compte de l'absence d'avant ?
Ah bah vraiment. Vraiment, c'est pour ça que ça a été une plongée. Bon, maintenant, on l'entend beaucoup, mais de dire que l'intime est politique, qu'il n'y a pas d'histoire de bonne femme, ça, Audre Lorde le dit magnifiquement. Enfin, toutes. Voilà, nos vies ne sont pas insignifiantes. Monique Wittig, dans Les Guerrières, dit même que le langage que l'on parle est fait de mots qui nous tuent, qui nous empoisonnent la glotte. Qu'il est fait, ce langage est fait de signes qui désignent ce que les hommes se sont appropriés. Dans Les Guerrières, elles se permettent du coup d'inventer un nouvel universel qui est le féminin pluriel. Mais ça, pour l'entendre, ne pas résister, ne pas avoir ça comme juste un effet de style, il faut se laisser faire. Mmh, mmh. Mais c'est difficile de se laisser faire. Parce que on est quand même très très déterminé par ce qu'on a lu, par ce qu'on nous a fait étudier. Et donc tous ces textes, j'ai choisi ceux-là aussi parce que je vis avec les mots de Monique Wittig et que c'est un cadeau et que j'avais envie de proposer voilà, d'autres textes. Il y en a plein d'humour comme celui-là.
Bon, viva. Valérie Solanas, c'est un texte qui s'appelle « Scum Manifesto ». Là encore, il y a du temps qui passe entre la première parution 67 et une traduction de l'américain en 98.
J'ai cette édition-là. L'autre, je ne sais pas où elle est, mais j'ai l'autre. Mais quand même avec une postface qui est terrible. On la lira pas.
Ah, mais oui, bien sûr, je l'ai lu.
Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce aux progrès techniques, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes, et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction d'espèces. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y n'est qu'un gène X incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis, ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit, ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible. Et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner ni en recevoir. Au mieux de sa forme, il ne fait que distiller l'ennui. Il n'est qu'une bavure sans conséquence. puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. Emprisonnés dans cette zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains, il est encore beaucoup plus défavorisé que les singes, parce qu'au contraire d'eux, il présente tout un éventail de sentiments négatifs. Haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute. Pire encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas.
Vous avez introduit ce texte à Namouglalis en disant « beaucoup d'humour ».
Bah oui, il y a beaucoup d'humour. J'aurais pu aussi vous proposer la fin. Mais ce texte, en fait, je l'ai connu grâce au film de Carole Roussopoulos, puisque le texte, effectivement, n'avait pas du tout été traduit en France. Et c'est Delphine Seyrig qui le lisait devant la caméra. Voilà.
Tu le fais à la machine.
Exactement, exactement. Et la première fois que je l'ai entendu, c'était comme ça.
Et d'ailleurs, sans enlever toute la portée, évidemment, revendicatrice, révolutionnaire, violente y compris, c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'elles sont, dans mon souvenir, elles sont face à face, presque autour d'une table de cuisine. Et t'en as une qui dicte, et l'autre qui tape à la machine. Et il y a un truc où elles, c'est comme si elles se foutent de la gueule de tout le dispo, enfin, de tout, quoi. Il y a quelque chose où elles rient, et en même temps, elles ne disent pas n'importe quoi. Mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de distance, quoi.
Ouais. Mais bon, c'est au cœur du texte de Valérie Solanas. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'elle calque sur les hommes, c'est ce que les hommes ne cessent de projeter, enfin, d'écraser sur les femmes. Le sexe faible. Et j'adore ce début avec les chromosomes. Effectivement, un Y, c'est un X qui a perdu une jambe.
Elle est drôle, quoi.
Ouais, elle est drôle.
Et c'est aussi retourner, bon, mais ça c'est dans quand même beaucoup de processus de lutte, retourner des stigmates pour en faire des forces, éventuellement prendre des mots qui ont blessé pour en faire des slogans ou les rejeter. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé d'ordre assez similaire dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, mais c'est important de rappeler qu'il y a de l'humour parce qu'il y a aussi des gens qui ont lu Scum Manifesto 13 au premier degré qui donc l'ont mal lu.
Ben oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Parce qu'en revanche, enfin, la guerre mondiale contre les femmes, elle a toujours lieu. Donc je comprends pas comment on se rend pas compte que ce qu'on a pu taxer de misandrie, c'est un miroir tendu. Et effectivement, avec une énergie, enfin, on sent la performance, on sent une énergie poétique, quelque chose de complètement punk, radical, génial.
Troisième texte dans ce premier trio que vous avez rassemblé pour nous, et c'est Audre Lorde, avec un de ses recueils très connus, qui s'appelle Sister Outsider. Ce sont des propos théoriques, des essais. C'est paru en 2003, dans la traduction française, mais c'était paru en 1978. C'est vraiment trois premiers livres que vous avez choisis, Anna Mouglalis, qui vraiment racontent ce temps qu'il faut pour les francophones d'avoir accès à ces figures et à ces textes-là.
Ouais. Alors que on en a tellement besoin. Enfin, celui-ci me bouleverse par sa puissance. Moi, j'ai rencontré Audre Lorde par la poésie d'abord, mais toute cette célébration du corps féminin, de l'érotisme. Effectivement, c'est la première chose qu'on nous enlève. Alors, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans les livres de Leonora Miano. D'une autre façon, dans de la fiction. Mais en tant qu'actrice, vivant dans ce corps qui a été objectifié, ça m'interpelle directement. Enfin, toutes les femmes, hein, toutes les femmes. Mais c'est... oui, pour moi, il y a eu un avant et un après ce texte.
Mais comme une voie de récupération de ça, vous diriez?
Oui, exactement, parce qu'on peut vite être dépossédé. Mmh. De son corps ou se retrouver dans des situations où, à partir du moment où il y a une jouissance de son corps ou ne serait-ce qu'une puissance du corps, un corps visible, il peut être attrapé, violenté, violé.
Ou même regardé d'une certaine manière.
Voilà, sali par un regard qui le réifie. Et la voix n'est pas de ne plus avoir de corps.
Non.
Ouais, on passe par là aussi. Hein. Mmh. Souvent, très souvent. Donc voilà. Bon, je... De l'usage de l'érotisme. L'érotisme comme puissance. Il existe bien des sortes de puissance, utilisées ou non, reconnues ou non. L'érotisme est une ressource présente en chacune de nous, à un niveau profondément féminin et spirituel. Une ressource solidement enracinée dans la puissance de nos sentiments inexprimés ou inavoués. Pour se perpétuer, toute oppression doit corrompre ou déformer, dans la culture de ceux qu'elle opprime, ces différentes sources de puissance capables de générer l'énergie nécessaire au changement. Pour les femmes, cela a signifié la suppression de l'érotisme comme source appréciable de puissance et de connaissance dans nos vies. On nous a appris à nous méfier de cette ressource, avilie, déformée et dévalorisée au sein de la société occidentale. D'une part, l'érotisme superficiel est devenu signe de l'infériorité des femmes. De l'autre, les femmes ont dû souffrir et se sentir méprisables et suspectes à cause de l'existence même de cet érotisme. À partir de là, le pas est vite franchi pour en arriver à la croyance erronée que nous, les femmes, nous ne serons vraiment fortes que le jour où l'érotisme aura été rayé de nos vies et de nos consciences. Mais cette force n'est qu'illusion, façonnée qu'elle est par les représentations masculines du pouvoir. En tant que femmes, nous avons perdu confiance en cette puissance qui vient de notre connaissance la plus profonde et la moins rationnelle. Toute notre vie, le monde des mâles nous a mis en garde contre cette puissance. Un monde de mâles qui accorde suffisamment de valeur à la force de cette émotion pour s'entourer de femmes qui la mettront à leur service, mais qui craint par ailleurs bien trop cette force pour en explorer les possibilités en eux-mêmes. C'est pourquoi les femmes ont été maintenues dans cette position de distance infériorité pour être sucées psychologiquement, à l'image des fourmis entretenant des colonies de pucerons destinées à fournir une substance vitale à leur maître. Pourtant, l'érotisme est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement pour la femme qui n'a pas peur de cette révélation et qui ne succombe pas à la tentation de croire que la seule sensation suffit. Bien évidemment, les femmes rendues ainsi plus puissantes sont dangereuses.
Je pense que c'est important en plus de préciser que dans la pensée d'Audre Lorde, l'érotisme c'est large. C'est-à-dire que bien sûr c'est un érotisme du corps sexuel, c'est l'expérience sexuelle, mais c'est aussi tout ce qu'elle fonde de sa pensée sur l'expérience du corps, mais aussi regarder des couleurs, sentir le vent, pouvoir, je sais pas, manger des trucs.
Être il y a cette... sujet, quoi. Être
voilà, l'érotisme sujet. Du vivant. Ouais.
Ouais. C'est ça, ne pas devenir juste un être qui pense, on pense avec tout. La vie nous arrive à travers les sens et la pensée aussi. Et effectivement, depuis Descartes, on a pris un coup là-dessus.
De séparer les deux choses, ouais. Quoi. Mais à la fois, quand elle dit, à la fin, bien sûr, des femmes qui sont en contact avec cette puissance sont dangereuses, mais je reviens aussi à ce que vous disiez à propos du précédent texte, c'est-à-dire se laisser faire ou accepter d'être... C'était à propos de Wittig que vous disiez ça. Comme consentir à un nouveau langage qui serait ce féminin pluriel, à ce bousculement du monde, ce renversement du monde. Quand Audre Lorde dit les femmes... en contact avec cette puissance sont dangereuses, mais encore faut-il aussi que elles-mêmes, ces femmes-là, elles consentent à cette propre puissance-là. Il y a quelque chose aussi, je trouve, qu'elle autorise. Je ne sais pas si je suis très claire.
Si. Enfin, c'est parce que bon, là, on n'a pas lu. Effectivement, on prend juste un petit bout, mais quand elle parle de toute cette dimension qui n'est surtout pas rationnelle, c'est de ça dont on parle. Il y a plein de réalités dans un monde. Qui se superposent, et on est souvent dissociés. Et quand on est dominé et qu'on nous dit que le corps est coupable, les femmes qui ne seraient pas sujets de leur propre vie, ben on est anéanti. Parce qu'elles déploient toute une chose sur la création aussi. Être en soi, être tout soi, en enlevant toute la lecture patriarcale et coloniale.
On passe à un autre choix.
Ouais. Alors, on va commencer peut-être par celui-ci.
Vous voulez dire ce que c'est ?
Alors, c'est un livre de Léo Thiers-Vidal qui s'appelle « Rupture anarchiste et trahison pro-féministe ».
Ok, tout un programme.
Tout à fait. Donc, Léo Thiers-Vidal, il a été proche de du Puy d'Héry, de Christine Delphi, il a plongé en féminisme, mais sans jamais se dire féministe, pro-féministe, mais pas féministe, puisqu'il parle de son endroit aussi d'homme. Et en fait, Léo Thiers-Vidal, il a essayé de concilier cette révolution qu'est le féminisme, qu'il a vécu fort et dont il sentait la nécessité, avec son engagement dans des milieux anarchistes et des milieux de gauche radicale. Et il s'est rendu compte qu'à chaque rassemblement politique, il y avait toujours des agressions sexuelles. Bon, voilà, enfin, c'est ce dont on parlait, toutes les féministes engagées. On est très heureuse aujourd'hui d'avoir Sophie Binet à la tête de la CGT, par exemple. Non, mais qui s'empare de ces questions, c'est crucial. Et je trouve que ce texte, un texte qu'il écrit sur la responsabilité collective, je trouve que, bon, ça fait écho à tout un questionnement qui, enfin, entre dans le débat public. Mais il s'agit vraiment de responsabilité collective. On ne peut plus dire qu'on ne sait pas, par rapport à l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Et j'aime ce qu'il développe là-dedans, qui est très, je trouve, très simple, mais très important. Face au silence qu'on entend souvent des hommes sur ces sujets, là, il y a une commission d'enquête, il y a une façon de se dédouaner en disant « mais moi, j'ai rien fait, ça ne me concerne pas », qui est au cœur du problème, en fait.
Parce que c'est tout le monde.
Ben oui.
C'est un texte qui a été prononcé, là aussi c'est un discours, en 2004. Léo Thiers-Vidal, il est mort en 2007. C'est une intervention au colloque Marx International en octobre 2004 que vous allez lire, enfin un extrait en tout cas.
Dont le titre est « Culpabilité personnelle et responsabilité collective. Le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat comme aboutissement d'un processus collectif. » Lorsque le 27 juillet 2003, Bertrand Cantat a décidé de frapper à mort Marie Trintignant, il a engagé sa responsabilité individuelle pour les conséquences de ses actes, quels que puissent être ensuite ses discours de déni, de reconnaissance partielle, de projection de responsabilité ou de pleine reconnaissance et éventuelle demande de pardon. Si cette dimension subjective, individuelle de la reconnaissance de culpabilité peut être importante pour les personnes proches de Marie Trintignant et la façon dont celles-ci pourront vivre ce meurtre, elle n'évacue évidemment ni la culpabilité individuelle de Quentin, ni la dimension de responsabilité collective pour ce meurtre. J'entends par responsabilité collective le fait que les actes de Quentin peuvent évidemment être analysés comme reflétant son investissement dans la masculinité hétérosexuelle, c'est-à-dire l'investissement subjectif par un humain d'un certain registre de pratiques de soi et des autres, source de bénéfices structurels considérables. Les actes de Quentin révèlent ainsi le degré de résistance et ou de complaisance que celui-ci a au préalable développé face à cette socialisation masculine hétérosexuelle. Plus spécifiquement, les actes de Quentin peuvent être également analysés comme le produit d'une socialisation masculine spécifiquement de gauche radicale. Et c'est en tant que pratique d'une masculinité hétérosexuelle engagée à gauche que les actes de Quentin peuvent collectivement interroger les hommes hétérosexuels de la gauche radicale. L'absence d'une culture de responsabilité, de retour politique critique sur soi, ses pratiques, ses émotions, ses désirs, ses objectifs, toujours justifiés au nom d'une cause considérée seule politiquement légitime, permet entre autres à ces hommes de construire un sentiment moral de puissance, d'intégrité, d'authenticité individuelle, devenu synonyme de capacité à agir politiquement sur le monde. Or, c'est précisément parce que l'interrogation féministe, en particulier sur le mode, le privé et politique, bloque ce sentiment moral d'intégrité et d'authenticité, et qu'elle introduit une perception contradictoire de soi, comme entre autres négatif, destructeur, violent et égoïste, que les hommes de gauche refusent majoritairement une lecture politique incarnée des rapports sociaux de sexe. S'intégrer soi à cette lecture, comme faisant profondément et structurellement partie du problème, semble être vécu comme incompatible avec l'engagement politique radical. On ne pourrait et faire partie du problème, et vouloir contribuer à sa résolution. Adopter une perception de soi qui est négative et positive, et qui oblige avant tout à déplacer la question vers les pratiques et leurs conséquences politiques sur la vie des autres, semble alors devenir synonyme de psychologisation, de dépolitisation, de culture chrétienne, stalinienne, de culpabilité, ce qui est paradoxal, puisque cette culture de l'irresponsabilité sert précisément à sauvegarder un sentiment moral d'intégrité et d'authenticité. L'analyse féministe des rapports sociaux de sexe invite en effet les hommes à se percevoir comme faisant profondément partie du problème, comme constituant un obstacle structurel à une société égalitaire. Elle invite les hommes à se percevoir non tant comme des individus, mais avant tout comme des membres d'un groupe social grandement dépourvu d'individualité. La réaction masculine courante à l'interrogation féministe consiste alors à dire « Oui, mais moi je suis différent, d'ailleurs je l'ai demandé à ma copine, et moi je suis pas comme ça, je vous l'assure, je fais bien la vaisselle. » Un enjeu central d'une lecture anti-masculiniste incarnée des rapports sociaux de sexe consiste alors, à mon avis, bien au contraire, à se dire « J'ai beaucoup plus de choses en commun avec Bertrand Cantat que de différents. Les actes meurtriers de Cantat en disent beaucoup plus sur ma façon de vivre et d'agir que je ne veux bien le reconnaître. »
Donc c'est un texte qui a un peu plus de 20 ans. Ça, par exemple, est-ce que Anna Mouglali, ça vous aide à penser J'allais dire, qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme chemin avec les hommes ou comme Je sais pas si vous attendez en fait en tant que féministe quelque chose des hommes en vrai.
Moi, j'attends si quand même.
S'il propose quelque chose en tout cas. Il propose aux hommes, voilà. Il propose aux hommes de se penser à un certain endroit. Il fait une proposition, voilà.
Ouais. Pour moi, voilà, les personnes qui ne font pas partie de la solution font partie du problème. C'est Denis Mukwege. D'ailleurs, le compagnon d'Andrea Dworkin, Stoltenberg, a écrit un livre qui s'appelle Refuser d'être un homme. Et il décrit. Mais tous ces mouvements encore là aujourd'hui de not all men, peut-être, mais il suffit d'un homme pour que toutes les femmes aient peur. Et il les appelle les amorphes, Stoltenberg. Et pour moi, c'est une autre façon de parler des amorphes. Bien sûr qu'il y a une responsabilité collective. Cette façon de toujours tirer les violences sexistes et sexuelles vers le fait divers, l'extraordinaire, la création du monstre, c'est insupportable.
C'est l'impossibilité dans le discours, en tout cas, de penser ces violences-là comme étant systémiques, en fait. Et ça nous emmène assez directement en fait, vers votre dernier choix, parce que vous avez choisi de lire un extrait du Berceau des dominations de Dorothée Ducy. C'est un livre qui paraît en 2013 et qui fait de l'inceste pas un tabou, ou pas seulement un tabou, mais la structure de la domination masculine.
Exactement.
Je le dis vite.
Non, mais c'est pas mal. C'est un livre extraordinaire. Dorothée Ducy est une anthropologue, mais elle a un style aussi assez formidable. On s'attend pas forcément à ça d'un livre d'anthropologue. Elle parle d'un endroit très clair, et ce livre est une plongée dans l'inceste pour permettre de comprendre le mécanisme de l'inceste, parce que depuis, Lévi-Strauss, où on nous a toujours dit que ce qui était partagé par toutes les sociétés, c'était l'interdit de l'inceste. Donc en fait, ce qui est partagé, c'est la silenciation, parce qu'en revanche, c'est pratiqué absolument partout. Et que c'est un désastre. Mais c'est encore compliqué. Et la création de la Civise en France, et on n'en entend presque plus parler, alors qu'il y a un travail remarquable qui a été fait. On a senti une attente. Ça a été un déclencheur pour plein de personnes qui n'avaient jamais parlé. On a dit, il y a des gens à la tête de l'État qui ont dit « on vous croit, on vous oubliera plus ». Et si, on a laissé tomber ces gens. Donc ça a été pour moi aussi vraiment... c'est un texte qui m'a complètement éclairé.
Vous en lisez un extrait ? Ouais.
Tous les jours, près de chez vous, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Toronto, à Mexico ou à Dallas, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. Ou parfois elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle avec son neveu, ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Madame et monsieur, médecin, magistrat, journaliste, écrivain, auteur de théâtre, chanteur, historien, psychologue et psychiatre définissent ainsi l'inceste. C'est ainsi que tout le monde définit l'inceste, en fait, à l'exception des anthropologues, qui n'ont pas de nom pour dire cette pratique courante de la vie quotidienne dans les familles, happés qu'ils ont été par l'attention portée à la théorie de l'interdit de l'inceste. Je reprends donc le dossier de l'inceste et l'ouvre au point de départ. Qu'est-ce que l'inceste ? Que vivent les gens qui vivent l'inceste ? Comment comprendre que les situations d'inceste soient courantes alors que l'inceste est théoriquement interdit dans toutes les sociétés du monde ? Je suis moi aussi anthropologue et comme mes collègues, je fais grand cas de l'articulation entre la règle sociale et la pratique. Sur la question de l'inceste, elle me paraît même essentielle à comprendre compte tenu du mal, parfois mortel, que l'inceste inflige aux gens qui le vivent. Je m'emploierai donc à décrire l'inceste dans les familles françaises, à documenter et à repenser l'articulation entre règles et pratiques, cette fois en bâtissant l'enquête et le projet de description sur les situations familiales existantes. À la faveur du réel et de la banalité des abus sexuels commis sur les enfants, on verra que l'inceste est structurant de l'ordre social. Il apparaît aussi comme l'outil primal de formation à l'exploitation et à la domination de genre et de classe. Nul besoin que chacun passe à la casserole pour que l'inceste éclabousse tout le monde. Par contamination du silence sur la pratique, exposition des comportements érotisés des uns ou des guerres de protection des autres contre l'érotisation, fréquentation des incestés et des incesteurs, on va voir que tout le monde participe, dès l'enfance, de l'ordre social qui admet l'inceste, mais l'interdit en théorie. Hommes, femmes, les enfants qu'ils ont été et ceux qu'ils auront, trinquent depuis très jeune de l'horreur de voir leur sœur ou leur petit copain d'école incesté, sans nécessairement savoir que ceux-ci sont incestés. Chacun apprend dès l'enfance à faire avec la bizarrerie de son frère ou de cette camarade qui baisse sa culotte au cours de gym et qui demande qui veut toucher. Pour ne pas avoir d'ennui, chacun apprend à composer avec ce qu'on lui donne à vivre et à voir. Chacun est imprégné, au berceau, des rapports de domination constitutifs des relations familiales. On verra comment l'inceste, en tant qu'exercice érotisé de la domination, est un élément clé de la reconduction des rapports de domination et d'exploitation.
Je reviens à cette phrase que vous avez dit tout à l'heure quand on a commencé à regarder votre bibliothèque, Anna Mouglaglis, c'est comment vous avez dit qu'à partir de certaines lectures, on ne peut plus envisager le monde de la même manière. J'imagine qu'après avoir lu un texte comme Le berceau des dominations, on ne peut plus regarder le monde de la même manière.
Non. Non. Et... Non. Et à partir du moment où on ouvre les yeux, on sait qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année, qu'il y en a au moins 3 par classe. On sait qu'il y en a partout autour de nous, que la société est malade de cette domination, de cette érotisation de la domination. Mais, moi, une fois que je sais, grâce à ces auteurs, ces anthropologues, Il y a des gens aussi qui sont très militants, des gens engagés dans des associations qui vivent au quotidien avec des victimes. Moi, une fois que je sais, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas.
Mais tout à l'heure, vous avez aussi souligné à plusieurs reprises le courage qu'il faut pour embrasser le réel avec des nouveaux yeux, notamment avec les outils du féminisme. Mais par exemple, je fais aucune hiérarchisation hein, entre ces violences, mais il y a un caractère profondément insupportable aussi de vivre avec ce que vous venez de dire, par exemple, de vivre avec l'idée que 3 enfants par classe sont incestés aujourd'hui en France, 160 000 victimes. C'est-à-dire que j'ai froid dans le dos en le disant, quoi. Donc il y a une résistance aussi qui tient encore au caractère insupportable de vivre avec. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est comme c'est insupportable de... Je sais plus, d'ailleurs je me demande si c'est pas Audre Lorde qui parle de ça, en fait, du confort de l'ignorance, quoi. Enfin, qu'il y a quelque chose qu'il faut bousculer de ça. D'accepter que, en fait, sortir de l'ignorance, ça va être vivre aussi un inconfort énorme, quoi.
La brûlure la plus proche du soleil, c'est ça. Pour moi, c'est pas... justement, ces textes qui permettent de toucher un réel dont on a tous l'intuition. Mmh. En fait, on est tous marqués dans notre chair. Mmh. On a tous vécu des violences. Moi, je ne connais pas une femme.
Non plus.
Voilà. Et depuis que je me suis invité certaines fois à prendre la parole, il y a de plus en plus de gens qui viennent me parler. Donc, en fait, quand on vit avec cette colère, cette douleur, et donc ce réel, c'est au contraire un soulagement de savoir, parce que tout est fait pour silencier, pour isoler. Il y a quelque chose d'immense qui peut naître de cette réalité partagée, de cette responsabilité collective. Enfin, les textes peuvent tous être liés, ils parlent tous de la...
Et puis articuler le savoir, enfin le savoir, ça permet aussi d'articuler des réels insupportables, en fait.
Mm. Ouais. Mm. Donc c'est des outils. Mm. Et ça donne énormément de force, en fait.
Merci beaucoup, Anna Mougalis.
Rien.
D'avoir ouvert votre bibliothèque au Book Club.
Merci à vous.
Écouter les textes choisis par Anna Mougalis, connaître les éditeurs, les traducteurs, les traductrices, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous pouvez retrouver tous nos portraits de bibliothèque. À la prise de son aujourd'hui, c'était Frédéric Kérou, au mixage Manu Couturier et à la réalisation de cet épisode, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.